Voilà, gloire à Dieu. Je vais aborder en définitive un sujet qui va toucher tout le monde. Il y a des sujets parfois qui ne touchent pas tout le monde, mais celui-ci, je suis convaincu, aussi bien parmi les jeunes que parmi les moins jeunes, eh bien c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, et peut-être à peine, je dirais peut-être hier, peut-être avant-hier, je ne sais, peut-être en vous levant ce matin. C'est la déception. Très important, la déception. Et la question est celle-ci, la déception, comment y faire face? Alors quand on parle de déception, on ne peut pas faire autrement que de parler aussi de la frustration, mais ça c'est un autre sujet. Mais moi je voudrais parler surtout de la déception. Comment y faire face? Alors, je vous invite à lire avec moi un verset pour introduire, juste ce verset qui me servira de tremplin, en quelque sorte, dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 12. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 12. Proverbes, chapitre 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Le même verset avec la traduction parole de vie. Et voici ce que nous dit cette traduction. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Mais un désir réalisé comme un arbre qui donne la vie. Et la traduction parole de vie, il me semble qu'elle est tout à fait et parfaitement reliée à notre sujet de ce matin sur la déception. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, risque d'être frustrée et en même temps déçue. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que peut-être ce matin, hier, avant-hier, je ne sais à quel moment, mais qui que nous soyons, jeunes ou plus âgés, nous avons connu des moments de déception. Je me trompe ou pas? Ça m'étonne que quelqu'un dise non, moi jamais. Ça serait une exception. La déception, la frustration, le découragement. D'ailleurs, Dieu a parlé ce matin dans ce sens-là. Et dans l'un des dons spirituels, justement, il était donner avec précision quelques points sur lesquels je vais revenir dans quelques instants. Tout d'abord, pour comprendre la déception, il faut comprendre son fonctionnement. La déception, c'est quoi? La déception, c'est un état. C'est un état ou un sentiment, le sentiment d'une personne qui est trompée tout simplement dans son attente. C'est ce qu'on a lu, Proverbe 13-12. Et donc, il est important de pouvoir faire en sorte, non pas d'éviter la déception, parce que de toute manière, c'est un leurre, puisque on l'a connu et on la connaîtra encore. Par contre, nous pouvons trouver un moyen de rebondir positivement afin que la déception ne vienne pas produire son œuvre, c'est-à-dire, et on va y revenir dans quelques instants, donc on l'a lu dans la parole de vie, le découragement, et avec le découragement, il peut en découler toutes sortes d'autres sentiments, tels que par exemple l'amertume. Et nous savons, au regard de l'Écriture, que l'amertume, c'est quelque chose de dangereux, à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. L'amertume, elle produit, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, des rejetons, et cela peut en infecter plusieurs. La déception a quelque chose de très négatif parce qu'elle va entraîner toujours un sentiment d'échec. Donc, je l'ai dit, un sentiment d'amertume. Elle peut entraîner un sentiment de honte, de confusion, de désespoir. Et on en arrive à n'avoir plus du tout confiance dans les autres, mais pas seulement en soi-même. Et là, quand on est chrétien, même en Dieu. Dernièrement, je lisais ce sondage qui m'a énormément surpris, mais après vérification, bien c'est un sondage sérieux, qui dit que 70% des chrétiens évangéliques croient que Dieu ne les aime pas. 70%, quand j'ai vu le chiffre, je l'ai pas cru. Mais malheureusement, c'est un fait. Et d'où vient ce fait? Il vient de la frustration, de la déception, du découragement, du désespoir parfois. Alors vous allez peut-être dire, mais qu'est-ce que nous raconte ce pasteur? Comment un chrétien peut-il connaître tous ces sentiments? Laissez-moi vous dire que nous ne sommes faits que de chair, même si nous sommes chrétiens, croyants, même si nous avons la foi en Dieu. Et si quelqu'un ce matin pourrait dire, après tout, moi la déception, je ne l'ai pas trop connue, eh bien un jour ou l'autre vous la connaîtrez. Je suis désolé de vous le dire, mais vous la connaîtrez, mais seulement on peut y faire face. C'est vrai que dans la Bible, on ne trouve pas directement ce mot, mais l'idée s'y retrouve plusieurs fois. Une personne qui attend trop longtemps quelque chose se décourage, le découragement. Et il y a, avec ce mot déception, le découragement, l'amertume, toutes sortes de synonymes, j'en ai cité quelques-uns, par rapport à des sentiments intérieurs, il peut y avoir de la désillusion, de la contrariété, de la rancœur, de la déconvenue, du chagrin, du dépit, du désappointement, et la liste n'est pas du tout exhaustive. Et tout ceci entraîne celui qui est touché ou qui se laisse toucher, je le répète, à l'amertume. Alors, quel est l'antidote, si je puis m'exprimer ainsi? Quel est le moyen d'y faire face et de ne pas se laisser dominer par ce sentiment de déception avec tout ce que je viens de souligner comme, eh bien, synonyme et réalité qui peuvent se manifester dans notre vie humaine? Je crois que la meilleure expression de la déception dans l'Écriture est en rapport avec le manque d'espérance. Alors, je ne vais pas dire la désespérance parce que c'est trop fort. La désespérance, pour moi, c'est quelqu'un qui, donc, se trouve dans une position qui est contre Dieu. D'ailleurs, le mot désespoir est trop faible. Le mot désespérance a pris le relais. Donc, un chrétien dans la désespérance, je ne le crois pas. Sinon, il faut qu'il revienne à la croix, ou soit, il faut qu'il se convertisse, se tourne vers Dieu. Non. Je vais parler plutôt de manque d'espérance. C'est-à-dire, il y en a un peu, mais il en manque. Il y a quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que je suis déçu. Être chrétien et être déçu, donc, je l'ai dit tout à l'heure, ça arrive. Mais c'est pas parce que je suis déçu ou frustré ou dans le chagrin ou un petit peu découragé que je n'aime pas Dieu, que je suis un mauvais chrétien, que je n'ai pas la foi. Il faut faire attention parce que notre vie humaine, notre vie, je dirais même intérieure, elle a tendance à fausser notre regard. Je pense qu'il est important de, chaque jour, et je pense que vous le faites, mais de demander à Dieu son aide pour que notre regard soit toujours un regard éclairé. Il y a tellement de choses qui voudraient rendre opaque notre vision, apporter une opacité, quelque chose d'un peu trouble, et de nous amener ensuite dans des travers, dans des réactions, dans des positions qui peuvent nous faire énormément de mal. Mais le problème, je l'ai dit tout à l'heure, si l'amertume se manifeste, elle va également toucher tous ceux qui nous entourent. Vous savez, quelqu'un a dit ceci un jour, je l'ai entendu, on engendre selon son espèce. C'est-à-dire, si vous êtes des croyants qui, malgré tout, gardez les yeux fixés sur le Seigneur, vous allez être arrosés de sa joie, malgré parfois quelques déconvenues. La joie de Dieu, c'est une force. Vous allez être également arrosés de sa paix, malgré parfois des oppositions. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va toujours garder nos cœurs et nos pensées dans la personne de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, dans les sentiments de Christ, dans les mêmes pensées que Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul aux Philippiens, écrivant cette lettre dans des circonstances pénibles, car je vous rappelle que quand l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Philippiens, il n'est pas dans un château. Il n'est pas assis dans un canapé moelleux. Il est en prison à cause de sa foi. Et il trouve la force de dire aux chrétiens de regarder les autres comme étant au-dessus d'eux-mêmes, de savoir considérer les autres, d'avoir cette démarche spirituelle de les aimer de cette manière-là, de les encourager, c'est-à-dire d'avoir, comme il le dit au chapitre 2, d'avoir les mêmes sentiments qu'étaient en Jésus-Christ. Et alors il développe, très beau passage, et puis un peu plus loin, il parlera de la joie, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Pourtant, sa circonstance de vie, à ce moment-là, fait que il y a plus de tristesse normalement que de joie. Il y a plus d'opposition que, eh bien, de victoire. Tout est négatif dans son environnement immédiat, quand il écrit cette lettre. Mais la particularité de Paul, c'est que lui-même, comme nous-mêmes, puisqu'il est de la même, ou il était, dirons-nous, de la même nature que nous, il a toujours cette bonne attitude, cette bonne réaction, c'est de regarder vers le Maître, pour rester dans l'espérance. Alors, je pourrais multiplier les exemples que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, par rapport au voyage missionnaire, au travail missionnaire infatigable de cet apôtre, l'apôtre Paul, avec ses collaborateurs. Et on se rend compte que tant de circonstances pénibles, compliquées, auraient pu l'amener sur le terrain de la déception, de la frustration, de l'amertume, du découragement. Mais l'apôtre Paul, bien plus tard, va, en enseignant Timothée, jeune serviteur de Dieu, fils spirituel de l'apôtre Paul, il va lui dire, Timothée, souviens-toi de toutes les souffrances, de toutes les oppositions, alors je paraphrase, de toutes les complications, de tout ce qui aurait pu me décourager, etc., déçu, frustré, quand j'étais à Lystre, à Icône, à Derbe, etc. Toutes ces souffrances que j'ai rencontrées, mais Timothée, sache une chose, c'est que le Seigneur m'a toujours délivré. Ce qui fait la force d'un chrétien, c'est l'espérance. C'est pour ça que j'ai dit cela tout à l'heure. C'est l'espérance. Parce que être déçu ou se laisser gagner par la déception, se laisser, je dirais, noyer dans la déception, c'est être vidé de son espérance. Et d'en arriver à dire, ben j'ai plus d'espérance. Et puisque j'ai plus d'espérance, ben j'ai plus besoin de Dieu. Puisque j'ai plus besoin de Dieu, bien je retourne dans ce que je vivais autrefois, mais c'est une catastrophe ça. L'espérance, mes frères et sœurs, mes amis, l'espérance, c'est un gage d'avenir. Je me souviens, c'est pas hier, mais j'étais jeune homme, j'avais 16-17 ans, dans la ville de Montpellier, et il existe toujours d'ailleurs, mais à l'époque, c'était ainsi noté sur la façade de cet établissement, c'était un centre de formation d'apprentis, et comme je me destinais à un certain métier, j'étais en apprentissage dans ce centre de formation, tout en étant chez l'employeur également. Et il y avait donc noté ceci sur la façade de l'établissement, il y avait noté « L'avenir se prépare aujourd'hui ». Moi, ça m'a marqué, regardez, je m'en souviens encore. Je ne me souviens pas de tout, mais je me souviens de cela. L'avenir se prépare aujourd'hui. En définitive, aujourd'hui, c'est demain. Oh, je ne fais pas de la psychologie. Je suis en train de dire des choses tout à fait logiques. Vous me comprenez? Demain, quand on y sera, ça sera encore aujourd'hui. Et donc, tous les jours, je prépare demain. Et la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci, comment je prépare demain? Et demain, vous allez vous poser encore la même question, comment je prépare demain, après-demain? Je vais préparer demain en m'appuyant sur l'espérance qu'il y a en Dieu. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens que beaucoup d'hommes d'hier, d'aujourd'hui, vivent sans Dieu, et vous voyez ce qui est relié, sans espérance, Éphésiens chapitre 2. Sans Dieu, sans espérance. Les deux sont reliés. Quand on est sans Dieu, sans Christ, on est sans espérance. Un chrétien, donc, peut connaître la déception, mais pas manquer d'espérance. C'est ça qui faisait la force de l'apôtre Paul. Mon espoir est en Jésus-Christ. Et l'espérance, donc, est un gage d'avenir quand il n'y a plus d'espérance, quand par déception on a été vidé de son espérance, ou qu'on s'est laissé vider. Le désespoir prend place et avec cette inquiétante question, et ça c'est grave, à quoi bon vivre? Se prémunir contre la déception, c'est possible, mais il faut changer de mentalité. Pourtant, la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est un changement de comportement. La doctrine du salut, c'est ça. C'est un changement de comportement, c'est un changement de mentalité. Mais ce changement s'opère que si je donne ma vie à Jésus-Christ, d'accord, premier pas, en l'acceptant comme sauveur et seigneur, d'accord, premier pas, en le laissant me pardonner de mes péchés, d'accord, premier pas, en me laissant laver par son sang de tous mes péchés, de toute mon iniquité, d'accord, premier pas, mais ça s'arrête pas là. Alors que quelqu'un prenait en pasteur, après il y a le baptême. Oui, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, d'obéissance. Mais ça s'arrête pas là. Tous les jours de ma vie chrétienne, on a assez de recul pour le dire, parce qu'on est passé par ce chemin-là. Mais tous les jours de ma vie chrétienne, de ma vie de serviteur et de servante de Dieu, je dois renouveler, me réapprocher un peu plus, toujours un peu plus du Seigneur. Rien n'est fait, rien n'est arrêté, rien n'est figé, tout est à vivre et à revivre encore. Quand j'ai compris cela, ma vie chrétienne, elle prend un ressort, elle a un ressort, elle a quelque chose de fort qui s'installe. C'est-à-dire que la routine, les habitudes, ces choses-là qui pourraient éroder ma foi, éroder ma communion avec Dieu, éroder ma relation avec Dieu, avec sa parole, toutes ces choses négatives ne pourront pas y arriver. Être toujours dans ce changement de mentalité, produit par la repentance et la conversion. Changement de comportement de mentalité. Renouvellement dans ce comportement nouveau. Renouvellement dans cette mentalité renouvelée. Je vais prendre un ou deux exemples. Je vais prendre cet exemple quand Jésus, à un moment donné, se trouve face à Jérusalem. L'Évangile nous dit que Jésus va traverser la montagne des Oliviers pour descendre vers Jérusalem. Matthieu chapitre 21. Et il y avait une foule qui suivait Jésus et une autre partie de la foule qui précédait Jésus. Et ces deux groupes qui suivaient Jésus, qui précédaient Jésus en direction de Jérusalem, criaient « Hosanna ! Au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu chapitre 21, verset 9. Mais si je lis le même texte, c'est intéressant, dans l'évangile de Luc, on est dans ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, au chapitre 19 et au verset 41, je me rends compte, en regardant le contexte, que à mi-chemin, de la ville de Jérusalem, alors qu'il y a ces chants, ces cris de joie, etc. Il est écrit « Comme Jésus approchait de la ville de Jérusalem, en la voyant, il pleura sur elle. » Eh bien, voyez-vous, mes frères et sœurs, on est dans le sujet. L'acclamation de la foule qui précède Jésus et qui suit Jésus va être dans un contraste avec les larmes de Jésus. Pourquoi Jésus pleure devant Jérusalem? Alors je le traduis, hein, c'est le sujet de ce matin. Jésus pleure devant Jérusalem parce qu'il est déçu de l'attitude des gens de Jérusalem. Jésus est déçu, ça vous choque? Vous savez, Jésus a connu les mêmes sentiments que nous connaissons, hein. Il a connu des angoisses, des luttes, des combats, des oppositions, des souffrances. Il avait faim, il avait soif, il était fatigué. Fils de l'homme, tout en étant fils de Dieu, en étant Dieu au milieu des hommes. il a ressenti tout cela. Et Jésus est touché par cette déception. Parce que quand je regarde littéralement ce que peut dire le texte, si je dis que Jésus, par ses larmes, est déçu, c'est une réalité. Il voit Jérusalem, il interpelle, il prie, il est... Voilà, il y a une situation et il y a une réaction opposée à ce qu'il attendait. Eh bien, il est déçu, et ce mot déception, si je le prends dans le contexte littéral, est bien le même que celui employé par un autre mot, c'est le mot deuil. Être dans le deuil. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, les larmes de Jésus sont associées à sa propre mort. Sa mort. Les larmes de Jésus reflètent sa déception parce qu'il sait, et là je suis précis, que les hosannas exprimés par ceux qui le suivent et par ceux qui le précèdent en direction de Jérusalem, tous ces hosannas messianiques, prophétiques de la foule aujourd'hui, se transformeront d'ici quelques jours en crucifix. C'est incroyable comment l'homme peut changer d'attitude en quelques jours, quelques semaines, quelques instants. Mais Jésus le sait, Jésus le voit, et c'est ça qui provoque en lui une forme de déception, de deuil. Il sait qu'il va donner sa vie sur le bois de la croix pour cette ville, pour ces gens, pour nous tous, pour l'humanité. Mais Jésus ne va pas se laisser aller, il pleure, il est touché, il est donc meurtri dans son cœur. Mais voyez-vous, c'est ce que j'essaie à vous expliquer ce matin, la déception, comment y faire face. Eh bien, Jésus nous montre comment y faire face. Car, en effet, si on avait été à sa place, on aurait profité des fameux hosannas messianiques. Ah, quel merveilleux moment! Ah, on voudrait que ça ne s'arrête jamais. Oh là là, quelle visitation, quelle bénédiction! Chose extraordinaire, on baigne dans un réveil. Oui, mais le réveil va vite s'arrêter par des crucifix-le pour essayer d'atteindre et éteindre celui qui est porteur d'espérance. Parce que le peuple s'est laissé tout simplement prendre dans un système intérieur négatif, celui qui a parlé peut-être a raison. Non, c'est Jésus qui a raison. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à le saisir, à le comprendre. Même les disciples vont l'abandonner. Il n'y en a qu'un seul qui restera au pied de la croix, c'est Jean. Accompagné de femmes. Comment est-ce que Jésus a réagi contre cette déception ? En rejetant ceux qui le rejettent, au moment où ils disent « crucifie-le », il aurait pu réagir ainsi. Ben, « Écoutez, vous me rejetez, ben, débrouillez-vous. Hein. Débrouillez-vous, je vais demander au Père de m'envoyer les anges, venir m'aider, me secourir, et puis hop, je repars. » Il aurait pu dire « je ne suis pas obligé d'aller à la croix, après tout. » Je suis déçu. Mais Jésus ne demande pas de délivrance angélique. Le texte nous le dit. Il refuse de permettre à la déception amère du rejet par son propre peuple de le faire dévier du plan parfait et de la volonté de Dieu pour notre salut. Il refuse. Il aurait pu se laisser gagner, Jésus. Il me rejette, crucifie-le, crucifie-le. On ne veut plus le voir, ôte-le. Ben, ils sont déçus, je suis déçu, on est tous déçus, et puis on s'entraîne tous vers le fond. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a fait. Et Jésus est un exemple pour nous, l'exemple suprême, celui que nous devons suivre, auquel nous devons obéir. Ce n'est pas l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, parce qu'eux-mêmes obéissent à Dieu, mais c'est à Dieu lui-même en Jésus-Christ. Il a refusé de permettre à la déception amère du rejet par son propre peuple, je le répète, de le faire dévier du parfait plan et de la volonté de Dieu. Et je vous pose la question, réagissez-vous, vous aussi, également de la même manière ? Où laissez-vous ? Où laissons-nous ? La déception nous faire dévier du plan de Dieu. Pour notre propre vie, pour notre couple, pour notre famille, pour l'église locale à laquelle j'appartiens. Qu'est une famille. Laissons-nous la déception nous faire dévier de la volonté de Dieu? Je le répète, pour notre vie, notre couple, notre famille, l'église locale, etc. Il faut se poser les bonnes questions. Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté, malgré tout, de donner sa vie pour nous. Et je pense qu'à l'exemple de Christ, eh bien, nous devons nous aussi dire, Seigneur, je ne veux pas me laisser gagner par la déception à cause de ce que j'entends, à cause de ce que je vois et qui est négatif. Ça risque de me frustrer, de me faire du mal, mais je veux rebondir spirituellement et être dans la bonne dynamique. Et aller au bout de ce que tu veux faire avec moi, ici, à Toulouse-Sainte-Agne. Ici, dans cette ville de Toulouse. Là, en Haute-Garonne et même au-delà. Un deuxième exemple ? Vous êtes toujours là ? Un deuxième exemple qui va vous intéresser et qui va vous interpeller aussi. Et ce deuxième exemple, je le trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, un texte fort connu, où le peuple d'Israël est en marche, à la sortie de l'Égypte. Et l'Écriture nous dit qu'au bout de 3 journées de marche, le peuple a soif. Quoi de plus normal dans un désert ? Désert de Chour. Et pendant les 3 jours, je suis convaincu qu'ils cherchaient de l'eau. Hein. Parce qu'au bout de 3 jours, c'est pas au bout de 3 jours qu'ils ont soif. C'était déjà au bout de la première journée, marcher dans un désert. Au bout déjà de... Moi, vous me faites... J'ai entendu qu'il y avait une randonnée. Moi, j'aime la randonnée. Je randonne pas mal dans le Tarn. Mais quand j'ai déjà marché, surtout en ces périodes où il fait chaud, vous savez, au bout de 10 minutes, déjà, je commence à boire. Hein. Alors, dans un désert, vous pouvez imaginer, 3 jours, sans trouver d'eau. Puis tout à coup, nous dit le texte, il y a un point d'eau. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Vous auriez fait comme eux. Hein. Il y a encore un peu de force, pour ceux qui avaient encore un peu de force, ils se sont mis à courir. Et la première des choses, bien sûr, c'est de boire. Et cette eau, elle avait un goût amer, marat. La question que je pose, je pense que vous avez la réponse, Dieu, le Père, leur avait-il dit de boire cette eau ? Oui ? Non ? Je ne sais pas, je ne me prononce pas, c'est un sondage, non. C'est pas marqué. Vous savez, Dieu ne se trompe pas. S'il leur avait dit d'en boire, il l'aurait dit. Ça serait noté dans la parole. Mais ce n'est pas écrit. Dieu ne leur a pas dit d'en boire. Non. Voyez, malgré que cette eau est amère et qu'elle va pousser le peuple, une fois qu'ils en ont bu, « Oh Marat, c'est amer, c'est insupportable !» 3 jours de marche dans un désert, épuisé, assoiffé, déshydraté. Eh bien, peut-être à cause de la situation difficile, bien sûr qu'ils sont déçus, pour pas dire les choses autrement, ils sont frustrés, ils sont découragés, et pourtant, ils n'arrivent même plus à se rendre compte qu'ils ont quand même une source. C'est incroyable comment on a une capacité d'oublier les bienfaits de Dieu. Il y a un petit cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Faut-il encore l'adorer ? Mais là, il ne se prosterne pas devant Dieu pour crier à Dieu. Il se prosterne devant une mare, devant un point d'eau qui est amer. Alors bien sûr, ça va créer de la déception, du découragement, de la frustration. Bref, une envie, même une envie pour certains peut-être même de mourir dans ce désert. Dire « On n'en peut plus ». D'ailleurs, qu'est-ce que fait le peuple ? Exode 15, verset 24, il murmure. Il n'adore pas, il ne loue pas, il ne prie pas, il n'invoque pas Dieu, celui qui les a sortis d'Égypte miraculeusement, il murmure. Contre qui ? Bien sûr, c'est Moïse qui va prendre. Hein. Et en lui disant, qu'est-ce qu'on va boire ? Mais il ne s'adresse pas à la bonne personne. Parce que Moïse a autant soif qu'eux. Il faut s'adresser à Dieu. L'amertume est un ressentiment mêlé de tristesse et de déception. Et la volonté de Dieu, dans son grand amour, dans le nom de Jésus, est de nous délivrer de la détresse, de telles amertumes, de telles déceptions. Vous savez, c'est un état intérieur, ni plus ni moins. et qui est destructeur, qui est contagieux, j'insiste. Il vient toujours de l'insatisfaction, de la déception, du désappointement, j'insiste avec ces mots, ça se grave en nous, de la frustration, ça produit le désabusement, le désenchantement, la désillusion, je l'ai dit tout à l'heure, on est dépité, ça entraîne le mécontentement, le chagrin, la colère, et ça devient destructeur. Et l'adversaire veut cela. L'adversaire cherche cela. Le remède, il est simple. Nous, les prédicateurs, quand on prêche sur ce texte, on le rappelle à chaque fois, et c'est normal. Le remède, il est simple, au verset 25 du même texte. Eh bien, il nous est dit que Moïse va invoquer l'Éternel. Moïse ne va pas murmurer avec le... Vous imaginez, nous, en tant que pasteur, Lionel, avec ton épouse, si un tel est déçu, amer, découragé, puis toi, tu arrives, tu dis, en visite, ouais... Moi aussi, hein, je suis découragé, j'en peux plus, vous avez raison. Mais tu fais 10 visites dans la journée, je crois que le dimanche, l'église, elle est morte. Hein. Alors, ce n'est pas qu'on se force quand on fait des visites pour encourager, parce que nous aussi, nous avons nos combats et nos luttes. Nous aussi, on peut connaître des déceptions. Et pardonnez, je pense que mon très cher collègue et son épouse pourront le confirmer, mais nous en avons eu plus qu'une déception dans notre ministère. Mais ce n'est pas pour cela qu'on s'est laissé aller. Et on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire, je reviens au texte, il va invoquer l'Éternel, et quand il crie vers l'Éternel, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il lui indique quoi? Un bois, qu'il va jeter dans l'eau, et l'eau est devenue buvable, potable, chassée de toute amertume. Ce morceau de bois, vous le comprenez, vous l'avez certainement déjà entendu plus d'une fois. C'est une belle image de ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix pour que nous soyons bénéficiaires de la grâce de Dieu, source de salut d'ailleurs pour tous les hommes, et qu'ainsi les eaux amères dans notre cœur soient transformées en douceur. Le Seigneur désire qu'aucune source amère d'agitation, de rébellion, de dépitement, de découragement, et j'en passe, de déception ne coule dans nos cœurs, mais qu'il y ait plutôt de la douceur, de la patience, de la tempérance, de la tranquillité, de la joie, j'insiste, hein, de la paix, de l'espérance. Alléluia, et je conclue. Parce qu'il y a eu un don spirituel qui a d'aller dans ce sens-là, ça veut dire, Laurent, le Seigneur me disait en même temps, Laurent, appuie là-dessus. Eh bien, j'appuie dans ma conclusion, par rapport au remède contre la déception, c'est l'attitude de Pierre et l'attitude de Jésus face à Pierre. Quel est le texte, c'est Matthieu tout d'abord, chapitre 26, du verset 31 au verset 35. Donc, qu'est-ce que fait Jésus? Je résume. Il va dire aux disciples, donc à Pierre, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, mais je vous rappelle que je vais ressusciter. » Et je vous précéderai en Galilée. Et là, à la limite, il ne serait pas intervenu. Je me serais dit, comment ça se fait qu'il ne soit pas intervenu, connaissant l'état d'esprit, la personnalité du bonhomme, Pierre. Qui c'est qui intervient? C'est pas Jacques, André, etc., Philippe. Non, c'est Pierre. Et Pierre, lui, dit, il aurait mieux fait de se taire, hein. Mais il a voulu quand même s'exprimer. Bon, il a le droit. Mais Seigneur, quand tu serais pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Alors Jésus aurait pu dire, enfin quelqu'un de solide sur qui on peut s'appuyer. Enfin quelqu'un qui ne sera jamais déçu, jamais frustré, jamais découragé. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Mais Jésus est obligé de lui dire, écoute, alors, puisque tu vas sur ce terrain, allons-y, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Là, il aurait mieux fait de se taire, parce que celui qui lui parle, c'est Dieu. Non, c'est plus fort que lui. Mais enfin, est-ce que tu as compris ce que j'étais en train de te dire, Jésus? Quand il me faudrait mourir avec toi, écoute bien, je ne te renierai jamais. Imaginez qu'à Saint-Agne, quelqu'un parle ainsi, « Seigneur, je te renierai jamais !» Certainement que Lionel et son épouse vont venir vous visiter, vous expliquer certaines choses, avec amour. Alors ça vous fait sourire, j'ouvre une parenthèse, il y a quelque temps de cela, une personne qui n'est plus du tout agroyée, lors d'une soirée de prière, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. « Seigneur, je ne mourrai jamais !» Mais je ne vous dis pas ce qu'elle a dit derrière. Il a fallu à un moment donné que j'intervienne un petit peu. Quand elle a dit ça, j'ai fait des sauts comme ça sur ma chaise. Oh, j'y dis, elle est unique. Oh, c'est un ange. Pas du tout. Elle disait des bêtises. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, voilà, moi, tu peux compter sur moi, je ne te renierai pas. Et puis alors, ce qui est étonnant, vous savez, c'est un... Il y a quand même de l'humour dans la parole de Dieu. Parce que moi, ce qui est étonnant, c'est que tous les autres disciples, ils emboîtent le pas de Pierre. Et, oui, mais moi aussi, Jésus. Hein. Mais ils n'en croient rien. Hein. Moi aussi. Il l'a dit, pourquoi pas moi hein. Et je termine en disant qu'il y a deux réactions opposées en définitive. Chez Pierre, on va dire les disciples, mais chez Pierre, restons avec Pierre, et chez Jésus. Je les cite très rapidement. Pierre, il avait un niveau de qualité élevé par rapport à ce qu'il attendait de lui-même face à cette épreuve, une fois, je dirais, manifestée dans le résultat qu'il attendait, car quand Jésus lui confirme à nouveau qu'il ne parviendra pas à résister, Pierre va, je l'ai dit, insister sur le résultat qu'il obtiendra de lui-même. Tu peux compter sur moi, je suis quelqu'un de solide. Mais quand la vérité, quand la vraie réalité arrive, Pierre va constater l'écart important entre ce qu'il s'attendait à réaliser et les actes qu'il a posés effectivement, c'est-à-dire le triple reniement. Et là, va s'installer en lui la déception. Elle va être accentuée, en plus par la foi et l'espoir que Pierre avait mis dans le résultat qu'il pensait pouvoir acquérir par lui-même. Et c'est ça l'erreur. Par moi-même, je ne peux rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Mais avec Jésus, je peux tout. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le rappelle dans cette conclusion. Et regardez l'attitude de Jésus. Matthieu, chapitre 26, versets 69-75. Nous avons en effet ce qu'il avait prévu par rapport à Pierre. Et quand on lit ces versets, lui, Jésus, il n'est pas du tout dans la déception. Quant aux actes de Pierre, pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas du tout mis sa foi dans un faux espoir, dans un résultat qui n'était pas possible. Jésus n'a pas évité la déception vis-à-vis des actions de Pierre, car les actions de Pierre auraient été bonnes, mais parce que Jésus n'a pas mis sa foi dans une fausse attente, dans un faux espoir, alors il n'est pas déçu. Jésus a mis sa foi dans la vraie réalité. Et cette vérité est tout autre que celle à laquelle Pierre s'attendait. Quelle est la fausse vérité dans laquelle Pierre croyait ? Quelle est la vraie vérité dans laquelle Jésus croyait ? Pierre croyait que l'homme peut suivre Jésus, peut suivre le chemin de Dieu par ses propres capacités. Jésus savait que l'homme ne peut pas suivre le chemin de Dieu par lui-même. Alors Pierre a été déçu amèrement, déçu profondément, découragé profondément, Jésus n'a aucunement été déçu. Ce qui fait que Pierre a besoin d'être dégagé de cette déception et amertume. Comment ? Il va pleurer amèrement. Il va réaliser sa folie. Il va réaliser son ego surdimensionné. Il va réaliser qu'il n'est pas du tout dans le coup. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écouté Jésus. Le seul moyen de ne pas être déçu, c'est d'écouter Jésus. Si vous vous écoutez vous-même, vous allez vous perdre. Si vous écoutez les hommes, ils peuvent dire de bonnes choses, mais parfois ils peuvent dire de mauvaises choses. Si cet homme, comme c'est le cas de votre pasteur, que je connais bien, parle de Dieu, amen. Pierre ne parle pas de Jésus, il parle de lui-même. Avec moi, il n'y a pas de problème. Et Jésus avait raison. Il va pleurer amèrement. Et je crois que la croix, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, elle peut tout changer. C'est un remède contre l'amertume. On a besoin de s'y tenir. On a besoin d'y revenir à la croix, au pied de Jésus, parce que c'est pas le moyen par excellence par lequel Dieu révèle son amour, Jean 3,16, qui ne connaît pas ce beau passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le pardon qui est en Jésus-Christ ôte l'amertume, ôte la déception, ôte la frustration, ôte la culpabilité, ôte le découragement, parce que je sais que c'est avec lui que je franchirai les étapes, que j'irai jusqu'au bout, que j'arriverai au ciel. Par mes propres forces, je n'y arriverai pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions avec la parole de Dieu. Mais souvenons-nous, moi j'aime beaucoup ce verset, je le mets sur votre cœur. Quand Moïse va répondre au peuple de la part de Dieu, alors qu'ils sont devant une impossibilité par rapport à la mer Rouge, les Égyptiens sont derrière, vous connaissez l'histoire, et sans plus, on est perdu, quoi. On va mourir là. On est déçu, c'est bien passé, mais on ne sait plus comment faire. Et Moïse, une fois de plus, il a la bonne réaction. Tourne ses regards vers Dieu. Et Dieu va dire, voilà ce que tu vas répondre au peuple. Et Moïse va parler au peuple et va dire, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tout simplement, restez dans le silence, dans le sens bien confiant, tranquille, dans la paix, dans l'espérance. Comptez sur lui, comptez sur son secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse, mais bien aimé de Sainte-Agne. Le meilleur est devant vous. Et l'apôtre Paul avait raison, oubliez ce qui est en arrière pour se porter vers ce qui est en avant. Moi, ça fait 5 ans, et dans cette 6e année dans laquelle nous rentrons, c'est ce que je dis à Groyer, ils l'ont compris, et on continue à aller de l'avant. Amen. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père. Merci pour ce culte. Car Seigneur, ces moments-là sont tellement importants pour notre foi. Ils sont tellement importants pour nous donner, Seigneur, la possibilité de continuer à faire des pas, Seigneur, supplémentaires. Des pas de foi, des pas pleins de confiance. Et Seigneur, tu as parlé par les dons spirituels. Tu as parlé d'une manière individuelle à chaque cœur, par la prédication de ta parole, sur un point, sur un autre, sur quelque chose de précis. Je te prie, Père, au nom de Jésus, de confirmer ta parole. Pour que chacun, retournant chez lui, vaquant à ses activités, Seigneur, puisse se laisser encore interpeller par ton esprit. Mon Dieu, interviens dans chaque cœur. Certains sont plus rapides que d'autres. Et ceux qui sont un tout petit peu plus lents, Seigneur, nous comprenons que ça soit ainsi leur démarche et nous sommes à leur côté. Mais nous te demandons, Père, de les aider également pour qu'ils y arrivent, pour qu'ils puissent se faire face, pour qu'ils ne se laissent pas gagner par la déception, la frustration, le découragement. Nous avons vu comment, à la croix, c'est de la croix que la grâce coule. C'est en toi, Jésus, et en toi seulement. Nous l'avons vu entre Pierre et toi, Jésus. Nous avons bien vu ce qui s'est passé, mais nous ne voulons pas tomber dans les mêmes pièges. Oui, nous voulons rester tranquilles, te regarder, regarder ta délivrance. Seigneur, la saisir encore pour l'Église locale, là, par rapport au projet de l'Église. C'est toi qui vas ouvrir les portes que personne ne fermera, et tu fermeras celles que personne ne pourra ouvrir. Seigneur, notre nouvelle naissance a ôté déjà l'amertume de la vieille nature qui était la nôtre, parce que notre cœur a été changé par toi. Et l'amertume du passé, Seigneur, ne doit plus réapparaître, parce que tu l'as effacée, parce que nous croyons en Jésus. Seigneur, merci de l'exemple que tu nous donnes, pour l'exemple que nous avons dans ta parole. Merci de bénir ton peuple ici, le couple pastoral, ses collaborateurs. Seigneur, fais éclater ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et si certains cœurs étaient encore avec des larmes, tu sèches ces larmes et tu changes ces larmes en joie. Parce que mon Dieu, de mal, tu le changes toujours en bénédiction. Nous en sommes convaincus. Et c'est ça qui nous permet de ne pas être gagnés par la déception. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites, qu'il fait et qu'il fera. Amen.